Mais vous citez Bernard Arnault. Ce matin, je ne sais pas si vous avez écouté RMC, mais il y avait le patron de la BPI France, la Banque publique d'investissement, qui disait que la taxe Zucman était un truc absurde, une histoire de jalousie à la française, qu'il faudrait plutôt faire des statues à l'honneur, à la gloire de Bernard Arnault, de Xavier Niel ou de François Pinault, plutôt que vouloir les taxer.
Bonsoir, c'est la dernière ligne droite avant le retour en direct dans les studios de Radio B. Les travaux sont presque terminés et ça valait le coup d'attendre quelques mois. Vous n'allez pas les reconnaître. En attendant, nous vous proposons de remonter le temps. Ce soir, nous reviendrons le vendredi 25 juillet 2003 pour la première partie de la 135e édition de Terminus des Prétentieux. La dernière en vendredi soir, la dernière avec la bande des débuts. Patrick, Christian, Thierry, Jean-Philippe et Frédéric n'auraient manqué pour rien au monde ce rendez-vous, pas comme les autres. Ce soir, il sera question de cinéma et croyez-moi, vous allez regretter de ne pas avoir suivi nos aventures à l'époque. Retrouvez à la fin de la rediffusion de l'émission les concerts de la semaine du 3 au 9 octobre 2025. Alors, vous êtes bien installé dans la DeLorean du Doc. Sur le convecteur temporel, vous avez choisi le vendredi 25 juillet 2003. Bon voyage sur le 90.0.
Tropique 90 FM 90.0.
Il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Vendredi 1er septembre 2000, vendredi 25 juillet 2003. Après 3 ans de bons et loyaux services, au terminus des prétentieux tire sa révérence. 135 émissions, c'est peu, vous me direz, mais quel travail effectué par nos animateurs du vendredi soir. Outre le trajet pour rejoindre votre station préférée, le froid, la chaleur, la pluie, le mal de dents, de gorge, les obstacles à franchir étaient fort nombreux. L'absence de réponse au blind test, les appels des auditeurs pas toujours d'accord sur nos prises de position, qu'elles soient sportives avec Richard Virenque, culturelles avec Michel Drucker et Pierre Perret, ou journalistiques avec la presse locale et régionale. Celles et ceux qui ne nous aimaient pas doivent être contents, hein, c'est à eux que je dédicace ces dernières émissions. Maintenant, jamais, il ne faut dire jamais, et un jour nous retrouverons Patrick, Christian, Jean-Philippe, Thierry, Ghislaine, Clément et Frédéric au micro de Tropique FM où une place leur sera toujours réservée. L'esprit de l'émission demeurera. Au terminus des prétentieux numéro 135 et dernière du nom ne disparaîtra jamais de nos têtes, de nos cœurs et de nos souvenirs. Si vous étiez un fidèle de l'émission sur Tropique FM, ne vous inquiétez pas, un jour nous réapparaîtrons. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux qui s'arrêtera autour de 21h mais qui est loin de disparaître. Nous aurions aimé être tous là ce soir, les anciens, les nouveaux, les filles, les gars. Saluons comme il se doit Ghislaine, la spécialiste des films érotiques, et Clément ayant préféré la chaleur et les monitrices des colonies de vacances à la moiteur d'un studio de radio. Frédéric nous rejoindra dans le courant de l'émission et nous parlera de ceux qui ont un métier, un vrai. La table est néanmoins bien remplie et je ne parle même pas de ce qu'il y a sur la table. La surprise est de taille, d'autant qu'une légende qui voulait qu'une partie de son anatomie soit plus grosse que la moyenne, il a payé sa dette au prix d'une opération chirurgicale dont il ne s'est jamais vanté à l'antenne. Aujourd'hui, il est de retour après 8 mois d'exil, il n'a pas changé. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous l'accueillons autour de notre superbe table ronde. Bonsoir Thierry.
Bonsoir à tous. Je regrette vraiment que nous ne fassions pas de la télé. Je serai à mon avantage après ce que tu as dit. Donc chapeau bas messieurs, hein, heureux d'être parmi vous. Après 2 ans de Mayotte, je retrouve avec bonheur le studio, je retrouve avec bonheur également le cinéma et la musique. Beaucoup de bons. J'ai entendu un excellent Panis qui chante sa feuille d'info. La phrase n'est pas de moi. Et c'est avec un grand plaisir aussi que je me suis replongé dans la presse nationale et dans la presse locale aussi, qui a fait beaucoup de progrès. Bon, on m'a dit que Christian passait ses vacances à Givors. Et par contre, la télé française sent toujours aussi mauvais, hein, entre le loft, enfin des lofts à toutes les sauces et des jeux débiles. Alors j'ai très envie d'en faire un là. On cherche un chanteur français de gauche qui boite, qui sent fort de la bouche et qui partage le nom d'un célèbre gardien du PSG. À vous de rétablir l'ordre des syllabes, on vous dira ça à la fin de l'émission. C'est Serla Mage. Donc une dernière fois, merci à tous et merci aux auditeurs dont la fidélité n'a d'égal que le nombre. Et en avant pour 2 heures d'émission pendant laquelle nous ferons une dernière fois caca sur la médiocrité.
De retour après une escapade dans les Landes, il a failli perdre sa voiture. Il tenait à être présent ce soir. Encore une brève de Charlie Hebdo dont il a le secret. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Michel. Alors, ben oui, mais dans les Landes, j'ai failli rencontrer Nicolas Sarkozy. Alors, finalement, j'ai gagné une voiture et j'ai perdu une rencontre avec Nicolas Sarkozy. C'est un peu triste.
Hein. Notre ami.
Ouais. C'est un peu triste, une dernière émission. C'est un peu comme un repas sans fromage, un stone sans chardenne, un journal local sans compte-rendu du bal des pompiers, une radio associative sans directeur des programmes. Mais ça n'existe pas, ça, une radio associative sans directeur des programmes. Un Tour de France sans dopage, une émission de rap sans Nelson, une vie culturelle sans intermittent du spectacle, un petit Grégory sans Juge Lambert. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été invité, le Juge Lambert, sur Tropic FM.
Il est parti.
Il mute. Un Gérard Roll sans cerveau, un président de la République sans Fred Bush, et pire encore, un vendredi soir sans un numéro du Terminus des Prétentieux, mais comme dirait notre maître à tous, notre Socrate du 21e siècle, et je rejoindrai Thierry, je parle bien sûr de Florent Pagny. L'émission s'arrête, mais vous n'aurez pas notre liberté de penser.
Véritable spécialiste en géopolitique de Tropic FM, il explique le monde comme Richard Virenque. Monte un col, non, ce n'est pas une danseuse, encore moins un routier. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir à tous, bienvenue à la dernière cérémonie de Terminus des Prétentieux, cérémonie qui jusque-là commençait toujours par le petit rituel du chapeau où chacun avait l'habitude de jeter l'anathème sur les grands exploiteurs et escrocs de notre monde. Alors parmi nos principales cibles, on pourrait désigner un vainqueur façon remise des Césars. Alors pour cette 135e, les nominés sont donc Jean-Pierre Raffarin pour son remake de Nous ne vieillirons pas ensemble, Jean-Marie Messier pour sa prestation dans L'Arnaque, le Pape pour son rôle dans La Momie, Georges Bush Junior impeccable dans Bagdad Cramé, Ernest Antoine Cellière incontournable dans Le Mépris. Mais leur décerner un prix serait une manière de les valoriser. Aussi, je préfère attribuer une récompense à tous les membres de l'équipe du Terminus qui, pendant 3 ans, ont assuré une programmation de qualité et n'ont jamais eu peur de dire ce qu'ils avaient à dire, n'en déplaise à certains journaleux et scribouillards de la presse locale. Messieurs les censeurs, le Terminus des Prétentieux vous salue.
Spécialiste de cinéma et de musique, il pêchait dans la partie média jusqu'à ce que Patrick lui lègue ses brèves de Charlie Hebdo. Depuis, ce n'est plus le même homme. Bonsoir Christian.
Ah, tu l'as dit Michel, bonsoir à toutes et à tous. Ils sont venus, ils sont tous là, mais rassurez-vous, personne ne va mourir, même pas, espérons-le en tout cas. Une certaine liberté de ton que le Terminus des Prétentieux aura cherché à maintenir depuis ce 1er septembre 2000, où cette émission a déboulé dans vos postes pour, allez, ne mentez pas, chambouler votre existence. Une atmosphère de fin de mariage ce soir. Vous savez, quand on est totalement déchiré au mauvais cerdon et qu'au lieu d'aller embrasser la mariée, on se retrouve à lécher goulûment la tatane qui pique au menton. Souhaitons qu'une dernière fois le Terminus conserve cette dignité, malgré le retour conjugué, sinon gagnant, du jeune cadre aux dents longues qui se prenait pour Trezeguet, ça c'est Frédéric, il va bientôt arriver, de l'exilé dans des îles lointaines où l'on ne sait même pas que Michel Drucker est mort d'une crise d'hémorroïdes, et du playboy qui a trouvé chez Didier Porte le compagnon idéal pour assouvir ses pulsions sadomasochistes. Allez, avec tout ce beau monde, on ne devrait pas s'ennuyer ce soir.
question s'est dépassée. J'en ai marre de me les poser. Si tout le monde pouvait se demander comment se faire du bien et se dire que pas se faire de mal, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui croient que c'est pas assez, qui veulent faire plus ou proposer, moi je suis prêt à voter contre l'homme de pouvoir et le mouton sans idée. Y'a bien quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas la moindre idée. Immobile, sourd et muet. J'ai pas la moindre idée. Immobile, sourd et muet. J'ai pas la moindre idée.
Un hommage solennel à Michel qui, grâce à son flair légendaire, nous a permis de découvrir, entre autres, Alpha Jet, mais aussi Prom, un Lyonnais sympathique que nous avions rencontré à la Tannerie il y a quelques mois pour un concert d'une excellente facture. Oui, j'ai décidé de reprendre toutes les expressions de l'émission. Une excellente facture.
D'accord, tout nautique en fait. On y a droit ce soir, merci.
Ce soir, pas d'idée, extrait de son premier opus.
Ça, c'est à toi, ça.
Que vous pouvez encore trouver sous le nom de Prom, titre qui, paraît-il, est très en vogue au sein du Parti Socialiste en ce moment. Pas d'idée.
Mais voilà. Et un deuxième album prévu pour 2004.
Et j'ai failli le marquer, mais j'en étais pas sûr.
Mais ça, c'est marqué nulle part, ça. Hein.
Oui,
mais c'est lui qui me l'a dit.
Ah, d'accord.
Voilà. Oui, puis tu peux trouver ça facilement sur Internet, enfin, à condition de savoir manipuler, mais.
Sur un site chafouin.
Tout à fait.
Voilà.
Voir pusilladine.
Exactement.
Cinéma! Cinéma! De Saint-Antal et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et quoi, c'est quoi? Cinéma! Cinéma!
Allez, 19h12 sur les 90.0 de Tropic FM. Où, Christian?
Non, où 15h... attends. 15h12
lundi.
Non, j'ai des problèmes avec les calculs, moi. Même si sauf dans les reins où ça va très bien.
Même si c'est la dernière, l'émission est rediffusée le lundi, donc lundi prochain, entre 15h et 17h.
Mais d'ailleurs, elle sera rediffusée, je crois, tous les lundis jusqu'à...
2007.
Oui, jusqu'à 2007.
Et au mois d'août, vous aurez même l'émission de secours, je vous rassure. Mm-hmm. Allez. Dernière fois, hein, cette semaine, les sorties nationales, le mois de juillet, ben c'est
que du bon.
Que du bon.
On
avec,
se régale.
Thierry va nous proposer un bordel de nouilles.
De bonne facture.
De bonne facture.
Surtout ses papiers quand même. Hein.
Oui, un bordel de nouilles.
Oui,
IQ. En fait, c'est à prononcer Aikeju. Et ça signifie orgasme en japonais.
Oui, oui.
Donc IQ, l'orgasme. Ça commence un peu comme les sous-doués en vacances, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une machine séduisante qui répond au nom de Raiko et qui est programmée pour accumuler un maximum de données sur l'acte sexuel. Jusque-là, tout va bien. Et cette machine, contaminée par un virus malfaisant, un virus dont on ne dit pas le nom, hein,
Jean-Louis Debré, peut-être.
Peut-être. Donc cette machine, Raiko, la mémoire du sexe, va être lancé dans le cyberespace à la recherche de ses souvenirs de fesses égarées.
Ça a l'air bien.
Ah, j'invente rien. Hein. Donc Shu Li Chang, c'est le réalisateur, il va nous entraîner alors dans un voyage vertigineux et pornographique à travers nos fantasmes. Je vous laisse imaginer le reste. Hein. Donc c'est du cul et du cul. Moi je préfère quand il y a une histoire. Comme cette scène où un homme tente de satisfaire une armée de poupées gonflables. Donc voilà, c'est un film pour vieux et moins vieux. Vieux et moins vieux libidineux qui vous permettra de vous rincer l'œil à bon compte en restant digne. Donc l'honneur est sauf.
Voilà, puis on s'est fâché avec nos amis du troisième âge, que l'on salue.
Et nos amis japonais, oui. Que l'on salue aussi.
Allez, pas de ciné sans Pacino, Christian.
Oui, c'était hors de question au terminus de passer sous silence un film avec le grand Al Pacino. Hein, parce que si vous me trouvez un film, même pas bon, où le Pacino n'est pas brillant... Ah, Patrick, tu n'es pas d'accord avec moi. Oh, oui, si, tu as 30 secondes.
Je me souviens que dans Marche à l'an, on n'était pas terrible.
Il était Pacino dans Marche à l'an.
C'était transparent, oui. Quasiment inexistant.
T'as bien fait de changer de télé, toi.
Non, en plus, ça tombe bien parce qu'on a regardé Serpico hier avec Thierry.
Eh ben dans Serpico, il était encore une fois prodigieux, comme d'habitude. Voilà, donc dans Influence, réalisé par Daniel Al Grant, Pacino joue le rôle d'un attaché de presse embringué dans une drôle d'histoire. Le voilà qui, d'un côté, organise une soirée en faveur de ressortissants nigériens sur le point de se faire expulser par le maire de New York. Et de l'autre, il accepte la mission que lui confie son dernier client, c'est accompagner une starlette, un brin déjanté, jusqu'à l'aéroport. Manque de bol, la nana, qui a d'ailleurs un passé sulfureux, se fait bêtement assassiner dans sa chambre d'hôtel, alors que Pacino est parti aux toilettes changer l'eau du poisson. Et voilà donc le point de départ d'une sorte de thriller politique à l'américaine, un petit peu dans la veine de ce que faisait Alan G. Pakula ou Sidney Pollack dans les années 70. Je me rappelle d'un film comme Clout, excellent, avec
Vanessa Redgrave.
Non, je crois que c'était Faye Dunaway.
Sans doute,
je ne suis plus sûr. Voilà, une mise en scène lente qui ne dévoile pas grand-chose du complot qui se trame, ni des personnages qui gravitent autour. Influence semble, d'après les critiques, manquer un petit peu d'intensité, mais je pense qu'on peut aller le voir, outre pour le Rital le plus génial du cinéma américain, pour Ryan O'Neill, qui a pris quand même, il faut le savoir, près de 30 ans depuis Barry Lyndon, mais qu'il se rassure s'il nous écoute, nous aussi. Et enfin, pour Kim Basinger, qui est impeccable dans les quelques scènes que le réalisateur Daniel Al Grant lui a accordé aux côtés de Pacino, un Pacino toujours parfait, dans un rôle de has-been en bout de course et qui joue sa vie avec une parfaite inconscience. Je rappelle le titre Influence.
Bon, et pour ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Qui couche avec qui?
Bonne question.
On le saura plus tard. Allez, elle est bonne.
On pourrait peut-être saluer Fabienne qui est présente dans le studio. Excusez-moi.
Pourquoi? C'est parce qu'il disait elle est bonne que tu salues Fabienne?
Oui, sûrement, oui.
C'est fin ce soir, hein?
Oui.
Ouais. Ouais. Il est temps que ça se termine. Mmh. Allez, elle est bonne, Monica Bellucci, Jean-Philippe?
Bah oui, bah ça en fait au moins une parmi les nombreux acteurs du dernier film d'Antoine Fuqua. Ne pas confondre avec Dragé, qui est un des meilleurs amis de Patrick. Film
une
donc intitulé.
Les... C'est de plus en plus fin.
Film intitulé Les Larmes du Soleil. En tout cas, c'est la réflexion primaire que peut se faire le spectateur français moyen à l'issue de la projection. Mais ce film présente en fait une plus grande complexité. En mettant en scène des forces spéciales américaines intervenant au Niger pour sauver une occidentale œuvrant pour une ONG humanitaire, Les Larmes du Soleil s'inscrit dans le cadre du cinéma dit de sécurité nationale aux États-Unis, dont un des objectifs est de refléter les tendances actuelles des options du Pentagone, soit pour y réfléchir, soit pour habituer l'opinion publique américaine ou occidentale à un certain type d'opération hors du territoire américain. Alors ici, en l'occurrence, le film témoigne de l'intérêt de plus en plus grandissant de l'oncle Sam pour l'Afrique, surtout les pays pétroliers du Golfe de Guinée, depuis une dizaine d'années. Et il nous conditionne à voir des soldats américains opérer sur ce continent et tuer des Africains. En effet, on ne lésine pas sur les scènes de combat réalisées avec efficacité. Alors, en ce sens, on pourrait comparer Les Larmes du Soleil à la chute du Faucon Noir de Ridley Scott, qui était sortie en 2002. Sauf que l'œuvre de Fuqua semble aller encore plus loin et paraît plus ambiguë. Elle n'est peut-être pas une apologie, comme il semblerait, de l'interventionnisme souhaité par Bush sur le continent africain. Cette politique a même été amorcée par Clinton. Elle n'est pas non plus un éloge de l'héroïsme sans éthique comme la chute du Faucon Noir, où la seule vie de soldats américains avait de la valeur. Bien plus en tout cas que celle des milliers de Somaliens qui étaient exécutés tout au long du film. Au contraire, ici, dans Les Larmes donc du Soleil, les héros menés par Bruce Willis cessent d'être des soldats américains, en acceptant d'abord d'aider la belle Monica à sauver les civils dont elle s'occupe, et ils essayent de les sauver d'un génocide annoncé. Ils désobéissent donc aux ordres. Moralement également, ils prennent leur distance par rapport aux troupes US en acceptant de mourir pour une cause qui ne sert pas les intérêts vitaux des États-Unis, alors que les options choisies par le Pentagone consistent à limiter justement les risques. Même physiquement, leur uniforme se transforme au fur et à mesure du trajet et des affrontements sanglants avec des bandes rebelles. Mais dans quel but opère-t-il une telle métamorphose? C'est là qu'intervient un dernier niveau de compréhension où se cache le véritable sens du film. Ils acceptent leur sacrifice pour obtenir, de leur propre aveu, une rédemption. Mais alors, quelle rédemption? Pour laver quel péché? Pas ceux qu'ils ont commis en opération, mais ceux dans lesquels sont nés les États-Unis. En essayant de sauver des populations africaines de l'extermination, Bruce Willis et ses hommes recherchent clairement le pardon pour
pour les génocides commis par la civilisation américaine sur les Indiens, mais surtout les populations africaines déportées comme esclaves dans le cadre du commerce triangulaire et de la traite des Noirs. Bref, Les Larmes du Soleil n'est pas seulement un film d'action, ni même une simple œuvre de propagande, mais c'est en plus un film sur la quête de rédemption des États-Unis face à leur histoire. Son ambiguïté et la présence de nombreux poncifs, néanmoins, n'en font pas pour autant une œuvre critique, mais sa complexité vaut quand même le détour.
Je suis épaté. Alors moi, ça me laisse sans voix. Imaginez un film de Bruce Willis avec Monica Bellucci.
Pourtant, la rédemption. Pourtant, c'est tout dans le film.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Bon, comme diraient tous les parents responsables en France, faut pas mettre les gosses devant TF1.
Oui, non, ni en faire des singes avant ou des champions en herbe comme les sœurs Williams. C'est sans doute ce message de ce film. Tu as dit le titre, Michel? Non, c'est Mes enfants ne sont pas comme les autres. Voilà, c'est une bonne surprise dans cette période plutôt creuse habituellement pour les sorties françaises. C'est un long métrage de Denis Dercourt que l'on avait connu moins en forme avec un film qui s'appelait Le Déménagement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Il y avait Danny Boone dedans.
Si, oui,
c'était vraiment très très moyen.
C'était pour ça que je ne l'ai pas vu.
Sans doute.
Je déménageais d'ailleurs.
Alors ici, on retrouve des acteurs plutôt exigeants dans leur choix. Mathieu Amalric, Richard Berry et l'excellent Maurice Garrel, trop rare devant la caméra. C'est un film qui traite de la douleur de l'apprentissage de la musique. Le genre de tracas que n'a jamais connu Pascal Obispo, paraît-il.
Mais que moi j'ai connu, puisque j'ai fait du violon quand j'étais petit, enfin quand j'étais jeune, hein, parce que.
Après, j'ai cassé le poignet.
Oui, c'est ça. Ouais,
il paraît que c'est une torture, le violon.
Je te dirais pas comment. Ouais.
Alors, le père Richard Berry est veuf. Il va forcer ses enfants, c'est le moins qu'on puisse dire, à apprendre le violoncelle et le piano. Pour le garçon, ça va être assez facile, ça va très bien se passer. Alors que pour la fille, ça va être beaucoup plus difficile. Elle va tomber amoureuse en plus de son accompagnateur. Donc vous me direz, c'est normal, les filles sont moins courageuses. Il n'y a pas de fille, donc on peut dire ce qu'on veut, à part Fabienne. Faut protester, Fabienne, c'est comme ça.
Oui, mais elle n'a pas le micro, hein. C'est quand même une grande différence.
C'est ce qui prouve qu'il y a égalité ici. En tout cas, un film beaucoup plus fin que ma dernière remarque, qui mérite le détour en cette fin de mois de juillet, s'appelle Mes enfants ne sont pas comme les autres.
Vous êtes content? T'es pas content?
Si, mais il me boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon? Ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas? C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable.
Les gros PD, ça vient.
Vous avez des gens qui s'enculent, comme mon ami et moi par exemple.
Pour les poèmes.
vos deux minutes, hein.
Eh oui, 1983, les organisateurs du Tour de France demandent à Kraftwerk, célèbre groupe allemand, cher à Christian, bien sûr, d'écrire un morceau en l'honneur de la, de la petite reine, pardon.
Oui, d'accord.
Ça m'a échappé. En plus, je ne l'ai pas marqué, c'est pire. Donc, titre qui deviendra d'ailleurs l'hymne de la plus grande course de vélo du monde, après la célèbre, bien sûr, montée du col de Bertian, que peu de monde ici peuvent se vanter d'avoir franchi. Levez les mains là.
Ah moi.
Ah oui.
Moi par contre.
Non, Michel, tu l'as.
Si je l'ai fait, mais t'étais pas
en voiture.
Fabien Louis en vélo.
Voilà. Donc 2003, rebelote pour les précurseurs de la techno et du cyber rock, allant jusqu'à se ridiculiser chez Drucker pour promouvoir Tour de France 03 et un nouvel album apparaître le 4 août prochain chez EMI. Et bien à l'instar des groupes cultes comme les Rolling Stones, Supertramp, Genesis, U2, arrêtez de vous mettre musicalement hors sujet. Hein. Kraftwerk avait disparu, il y avait que des morceaux cultes. Hein. Rappelez-vous, Autobahn, Radioactive ou Trans Europe Express, sans oublier Philippe Boucher, mon maître en matière de musique électronique, dont Alan Parsons est l'un des plus grands représentants. Et bien ce soir, c'est un nouvel hommage au Tour de France et à ses vrais sportifs, hein, Ulrich, qui attend Armstrong, et Armstrong qui n'attend pas Bellocchi. Ces Américains, ils sont vraiment les plus forts ou les plus cons, c'est à vous de juger.
Ceci dit, il aurait pu l'attendre longtemps, oui. Michel Bellocchi, parce qu'il a quand même une fracture du fémur.
Il y sera encore là.
Il aurait pu s'arrêter pour demander s'il allait bien.
Ah oui, Michel.
Mais Monica,
c'est un côté bien élevé, ça, Michel.
Oui, c'est vrai, ça me perdra. Allez, terminons.
On peut rebondir, Michel, puisque tu parles du Tour de France.
Oui, bah,
on va parler dans la partie média, parce que dans le Canard Enchaîné cette semaine, on pouvait dire qu'à deux jours de l'arrivée du Tour, du centième, hein, les organisateurs sont très inquiets, puisque la moyenne horaire cette année devrait battre tous les records, ce qui tente à prouver que le dopage recule dans le vélo. Et Antoine Vaillé, chercheur notamment dans le domaine du sport, dans Libération, rappelait que l'effort développé cette année par le maillot jaune revenait à pouvoir suivre. Notez-le bien, un cycliste roulant à 10 km/h sur une montée à 10% de dénivelé, même avec 100 kg sur le porte-bagages. C'est pas mal, je sais pas si vous imaginez. Ce qui ne semble pas inquiéter en tout cas l'hilarant Daniel Ball, qui est maintenant directeur adjoint du Tour de France et ancien président de la Fédération Française de Cyclisme, qui a la conviction profonde que des progrès gigantesques ont été accomplis dans la lutte anti-dopage.
Ball, qui a d'ailleurs laissé des finances désastreuses dans la Fédération Française de Cyclisme, hein, tout le fameux trou de balle qui reste mémorable.
Voilà. Oui. Eh bien, on termine.
Excusez-moi.
C'est un véritable feu d'artifice ce soir. Les films à expédier, c'est le cas de dire.
Hein, oui, oui.
Surtout en ce mois de juillet.
Ah ben, ça tombe bien.
Mois de juillet.
Oui, alors regarde-moi en face de Marco Nicoletti. Voilà. Alors c'est l'histoire d'un amateur qui paye le type d'en face pour qu'il lui permette de regarder à la jumelle ses ébats avec la jolie Cécile de France, l'actrice. Hein, on peut le comprendre. Hein. Mais le voyeur a un fils, Antoine, qui bien sûr va tomber amoureux de la belle. Ça aussi, on peut le comprendre. Moi, ce soir, j'ai décidé de comprendre tout le monde. C'est formidable. Je vous aime tous. Vous êtes beaux et tout. Alors c'est une fausse comédie à l'italienne dont les journaux s'accordent à dire qu'elle est surtout poussive, voire pénible. Le Canard Enchaîné fusillant même le pauvre Marco Nicoletti, c'est toujours mieux que Nicoletta, en affirmant que ce regarde-moi en face ne se hisse même pas au niveau d'un mauvais téléfilm de M6, ce qui en passant est d'ailleurs un pléonasme. Un passe donc recommandé, je cède la parole à qui la veut.
L'anniversaire de Bruce Lee, Jean-Philippe.
Ah oui, la légende de Bruce Lee. Il s'agit d'une rétrospective consacrée à Bruce Lee pour le 25e anniversaire de la mort de celui qui fit découvrir à l'Occident les secrets du Kung Fu. D'ailleurs, on lui a voulu beaucoup en Chine d'avoir dévoilé un certain nombre de choses qui étaient réservées en général aux Orientaux. Alors, cette... Kato, oui. On se croirait avec Peter Sellers dans un film de...
Kato, mais de gauche. Hein,
voilà, d'accord. Un film sur la Panthère Rose. Alors, cette rétrospective est accompagnée de rediffusions des meilleurs films de Bruce Lee, La Fureur du Dragon, Opération Dragon et Le Jeu de la Mort. Ce dernier film étant marqué par un combat d'anthologie entre Bruce Lee et le géant Karim Abdul-Jabbar. Et puis, c'est un film aussi que Bruce Lee n'achèvera pas. Il mourut entre-temps. Alors, certains ont dit de la drogue, etc. En fait, il est mort tout simplement, je pense, de surmenage et d'épuisement, puis aussi d'une overdose de cake aux
olives.
Cannabis, je crois.
Comme Jacques Antil.
Mais Bruce Lee était un grand consommateur de gâteaux au cannabis.
Mais il fumait pas. Il ne fumait pas, mais il mangeait du gâteau au cannabis.
D'autres versions disent qu'il y a eu une scène où justement il empoignait la poitrine velue de Chuck Norris. Il aurait consommé les poils de Chuck Norris.
Je les aurais inhalés, effectivement.
Vous vous souvenez de cette scène où il a gravé la poitrine velue de Chuck Norris? J'arrête, tu sens que ça t'excite.
C'est vrai que tu as vu tous les films avec Chuck Norris.
Tous.
Un combat d'anthologie.
Porté disparu 1, porté disparu 2, porté disparu 3.
Il a rendu ses poils à Norris et Chuck Norris.
Il y avait un combat d'anthologie entre Bruce Lee et Chuck Norris dans, dans la fin du film Opération de Dragon, dans le Colisée de Rome.
Et il est mort deux semaines avant d'entamer un tournage avec Eric Rohmer, et ça c'est plus surprenant, et ça s'est pas fait, et on peut le regretter.
Non, les cons de la pleine lune, pardon.
Et donc, Chuck Norris, puisqu'on en parle, il était sans doute meilleur karatéka qu'acteur. Il était à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, champion du monde de karaté. Et il avait pour maître, justement, Bruce Lee. Donc, c'était un bel hommage pour cet homme qui entraînait pas seulement Chuck Norris, mais d'autres grands karatékas du moment. Un homme qui disposait aussi d'un charisme et d'une vitesse d'exécution hors du commun, mais qui n'a paradoxalement jamais participé.
C'est ce que sa femme disait aussi.
Et qui n'a jamais participé à des compétitions. Effectivement, il peut pas se prévaloir d'avoir des ceintures noires, etc. Son seul titre de gloire était un tournoi de boxe anglaise dans son lycée de Hong Kong quand il était adolescent. Il excellait aussi dans l'art de danser le cha-cha-cha, ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs de devenir plutôt un phénomène dans le domaine des arts martiaux qu'il contribua à promouvoir en Occident.
C'est vrai. À l'époque, tout le monde fabriquait des nunchaku avec des bouteilles d'Evian.
Moi, c'était avec des canettes de bière.
Mais tout le jeu, c'était de les vider avant, c'est ça? Voilà.
Non, on avait que ça à la maison.
Bah, tu vas pouvoir en refaire ce soir, j'ai l'impression.
Bah, il faut parler d'un autre film, Michel.
Oui,
on pourrait parler par exemple de Johnny English, de Peter Howitt. Alors, on retrouve qui dans ce film, Michel?
Et Thierry, non?
Thierry après,
Il dort.
Qui est Johnny English?
Oui, alors Johnny English, c'est Ronan Atkinson, plus connu sous le nom de Mr. Bean ou Jean-Pierre Chevènement. Ça dépend des jours.
C'est Rohan.
Rohan.
Ah, c'est Ronan. Rohan.
Avec un W comme.
Mais nous, on a notre vélo. Mr. Bean aussi, Ronan Pasek.
Ah, d'accord.
Donc Jean-Pierre Chevènement.
Mais Jean-Pierre Chevènement.
Voilà. C'est quoi ce Johnny English? Oui, Johnny English est un pastiche des films de James Bond. Voilà. Donc le scénario d'ailleurs a été écrit par les deux scénaristes des deux derniers James Bond. Voilà. C'est simplement à voir sans doute pour la participation de John Malkovich,
qui fait le méchant
de service, bien sûr.
Il sera bien.
Un rôle dans lequel il excelle. C'est sans doute mieux réussi que la transposition des séries Mr. Bean. On avait fait un film de cinéma qui était catastrophique. C'est vrai que parfois Mr. Bean, ça peut arracher un sourire. C'est nettement supérieur à Benny Hill. Voilà.
Et la référence.
On a les références qu'on peut. Mais moi, dimanche soir, je n'avais que la 3. Oui. Voilà.
Allez, Derek.
Thierry, un film à ne pas voir.
C'est dans Rêve les filles. C'est un film américain.
Oui.
Donc ça commence comme les sous-doués en vacances. Non, ça c'est l'autre.
Thank you.
Non, ça commence comme un mélo. Daphne Reynolds, c'est une jeune américaine. Elle a 17 ans. Elle vit seule avec sa maman. Et elle se rend à Londres
avec maman.
Voilà, pour y retrouver son père, un brillant aristocrate. Et là, c'est plus mélo, c'est plutôt une comédie. Et cet Américain dans un jeu de quilles va bouleverser quelque peu la vie bien huilée de son lord de papa. Un film à ne pas voir, parce que ça sera de toute façon sur TF1.
Tu en as parlé avec enthousiasme.
Un dimanche soir, l'année prochaine.
Donc, mais c'est écrit très petit sur ta feuille quand même.
C'est pour ça, oui.
T'as des problèmes de vue maintenant. Alors, même Dieu est venu nous voir, justement, de Peter Pobzlatef. Alors, voilà un film franco-bulgare avec l'acteur français Philippe Walter, dont j'aurais aimé vous parler davantage ce soir. Mais dans la sortie a curieusement été repoussée à septembre. C'est peut-être que Clément vous en dira un peu plus s'il est là l'année prochaine. Le réalisateur Peter Pobzlatef en profitera donc pour méditer cette réflexion littéraire. Si mon film passe pas l'hiver, c'est la faute à Voltaire.
Ah, c'est joli ça.
Alors, le cinéma argentin n'en finit plus de produire et d'étonner. Cette semaine, c'est le film d'Eduardo Loza, Estrano ou Estraño, je ne sais pas comment on prononce, je n'ai jamais fait l'espagnol, je n'ai pas la maîtrise des langues de Christian.
Extraño.
Extraño.
Est-ce qu'il y a une rota dessus? C'est pas une tache de gras, Jean-Philippe.
Non, moi, j'avais pas l'affaire sur il y en avait une.
On dit côte d'agneau, on dirait Estraño.
C'est pas la peine de nous faire une rota en direct à l'antenne, Christian, merci. Estraño signifie étranger, terme qui convient au héros, Axel, qui a 50 ans et qui a l'impression d'être justement étranger à sa propre existence, qui semble se dérouler sans lui, même lorsqu'il rencontre une jeune femme enceinte, Erika. Alors, cette tentative de reprendre le contrôle de son existence avorte, mais pas Erika, l'accouchement a lieu, mais il reflète très bien l'errance d'Axel à côté de la vie. Il en est le spectateur, en fait, et non l'acteur, puisqu'il contemple, justement, la naissance du bébé derrière une vitre. Le scénario peut paraître ennuyeux, mais la composition des acteurs, le brio du réalisateur font de ce film une des curiosités cinématographiques à découvrir cet été.
Ouais, en parlant d'ennuyeux, j'ai vu deux films du fameux renouveau du cinéma argentin il n'y a pas très longtemps au centre culturel. Je crois que le mot ennuyeux était parfaitement adapté à ce type de cinéma.
C'est pas ce que dit
éprouvé un tel assoupissement.
Les Neuf Reines, c'était très bien. Les Neuf Reines, c'était bien argentin.
Non, non, mais c'est pas de ces films-là dont on parle quand on parle du renouveau du cinéma argentin. C'est La Cienaga ou El Bonaerense, c'est qui se passait dans un commissariat. Mais je dois dire que c'était d'un ennui absolument gigantesque. J'ai peur qu'Extrano suive le même chemin, mais enfin bon, les gens nous appelleront s'ils sont pas contents, ça, on sera plus là. Pardon.
Un petit japonais, Michel, pour la route.
Oh bah oui.
Bah, il s'appelle 19. Voilà, c'est un réalisateur japonais de 19 ans, le titre du film. Il s'appelle Kazushi Watanabe, qui raconte l'histoire de trois jeunes tueurs de 19 ans.
C'est Watanabe.
Watanabe.
Oui.
J'ai du mal avec les syllabes.
Allez, tu vas recommencer comme il faut.
Ça va être le champagne. Moi, je suis comme les commentateurs du tour sur Eurosport.
Non, c'est au Gaillac.
Comme Jean-René Godard. Ouais,
Tropic FM, on a
Eurosport.
On va résumer. Ton film japonais, c'est ni pont ni mauvais.
Vous êtes fort. Non, mais c'est le moment de dire que sur Tropic FM, on a les moyens de boire du champagne, alors que sur Eurosport, il tourne au Gaillac. Ah, c'est pour rétablir un petit peu
un bon Gaillac.
Oui, mais ça pétille pas. Non, sauf s'il vient par bateau. Voilà, n'importe quoi.
C'est passionnant.
Donc, il s'appelle donc Michel, ce réalisateur
Watanabe.
Watanabe.
Kazushi Watanabe. Ouais.
Et il nous raconte l'histoire de trois jeunes tueurs de 19 ans qui sèment la terreur sur les routes. Alors, on lorgne évidemment du côté de Kitano et de Tarantino pour un résultat assez proche de zéro. Alors, et je ne vous parle pas de la musique dont la finesse n'est pas sans rappeler le premier album de Motorhead. Alors, à Sarajevo, et je sais que Michel, tu y seras sensible, ce film a obtenu le prix Agnès B. Sans doute pour les costumes. Voilà. Aucun intérêt, Michel.
C'est vrai. Dernier film, hein, et c'est Thierry.
On termine avec le film de la semaine, Blue Crush. Oui. Alors c'est Anne-Marie, qui est une belle plante, qui vit avec deux de ses amis et sa jeune sœur. C'est très engageant déjà ça. Et pour gagner sa croûte, Anne-Marie,
comme tu veux.
Elle travaille dans un hôtel de luxe. Donc une vie tout à fait banale. Si ce n'est qu'Anne-Marie, donc la quasi inconnue Kate Bosworth. On était Red Dingo de surf. Alors on est à Hawaï. Ça tombe bien.
Ah oui, j'ai lu un résumé de ce film.
Du surf. Et l'amour bien sûr, va briser ce beau rêve de vagues et d'écume.
Et tu as vu ce film en salle cette semaine.
En avant-première. Dans l'avion. Et donc les yeux du quarterback Matt Tolman vont éloigner des plages et mettre en péril sa participation à la célèbre compétition du Pipe Master. Textuellement, ça s'appelle c'est les Masters de la Pipe.
En anglais, on dit pipe.
Et la question donc, la question de la semaine, c'est Anne-Marie, sera-t-elle choisie entre les pipes d'écume et les touchdowns de Matt? Voilà. Courez voir ce film.
Bon, mec, j'espère qu'on ne sera pas obligé de les dérouiller. Non, de les descendre à la chasse. On dirait aussi bien les faisans que les pigeons. Hein.
Le film de Martin Scorsese, Gangs of New York, que nous avons plutôt bien apprécié, Clément et moi, au Terminus des Prétentieux, présentait de nombreux atouts. D'abord son propos, la remarquable prestation de Daniel Day-Lewis dans le rôle de Bill Le Boucher, mais aussi une BO exceptionnelle à laquelle de nombreux artistes célèbres ont participé, comme Peter Gabriel. Il y a un morceau de 8 minutes qui est fabuleux. C'était un peu long, 8 minutes, pour l'émission, donc je me suis rabattu sur autre chose.
Elles sont longues, vos 8 minutes.
U2, qui est incontournable dès qu'il y a un film sur les Irlandais, mais le morceau est pas mal. Hein. On retrouve aussi des déformations moins prestigieuses, mais très talentueuses, comme Afro Celt Sound System, un groupe qui, comme vous venez de l'entendre, mêle des musiques celtiques avec des fonds rythmiques africains, ce qui colle parfaitement à la jeunesse de la culture américaine, mélangeant des héritages africains, ceux des descendants des esclaves noirs, et puis des héritages celtes, des migrants irlandais, qui sont les héros de Gangs of New York, opposés dans le film aux bandes armées des Natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés aux États-Unis. Une BO que vous recommande l'équipe du Terminus des Prétentieux, avec d'autres morceaux qui sont vraiment, vraiment exceptionnels. Pour ceux qui ont vu le film, ils reconnaîtront d'ailleurs cette musique terrible au début du film, où on voit les migrants irlandais partir à la bataille, partir à la guerre contre les Natives. Il y a un morceau qui est vraiment anthologie, c'est un peu long, et puis surtout c'est un peu le même morceau qui revient sans arrêt, mais ça évoquera beaucoup de choses. Voilà, morceau très fort.
Et dans ta BO, il n'y a pas d'autres artistes?
Si, il y en a d'autres, j'en ai cité, Peter Gabriel, U2, puis j'ai pas fait le tour. Hein.
Je pense que t'as dû oublier quelqu'un et ça fait de la peine à Michel.
Oui, bah vas-y Michel, qui est-ce que
non, je ne sais pas, mais quand tu disais U2, je parlais de vrais artistes, c'est pour ça.
Oh, ah, Michel.
Un déçu de U2. C'est petit et mesquin, mais c'est pas grave.
Oui, merci Jean-Philippe.
Je t'en prie.
Je suis enfin démasqué, il est temps. C'est marrant la vie, hein. Une musique d'Armageddon et je crois que Frédéric arrive.
Ah, enfin.
Voilà. Bonsoir Frédéric, qui arrive?
Ah, très en forme apparemment.
Eh oui. Je pensais pas qu'il.
Oh mais je vois qu'il n'est pas venu seul.
Quelques informations cinéma, Christian.
Infos cinéma, oui, pardon.
Mauvaise nouvelle pour ceux qui, comme Thierry et moi, ont aimé Dogville de Lars von Trier. Eh bien Nicole Kidman, qui devait tourner la suite de ce qui au départ est prévu comme une trilogie sur les États-Unis, eh bien Nicole Kidman renonce au projet finalement pour des raisons d'agenda. Enfin tout ça n'est pas très clair. Elle ne serait plus libre au moment du tournage du deuxième volet qui s'appellera Manderley. Mm-hmm. On s'achemine même vers trois actrices différentes pour les trois films. Une succession quand même difficile, hein, tellement Kidman était parfaite dans Dogville. On se souvient qu'elle a eu une standing ovation d'un quart d'heure au Festival de Cannes. Elle a d'ailleurs été tellement convaincante que les jurés l'ont oubliée. Des choses qui arrivent. Patrick,
il parlait juste de Catherine Zeta-Jones pour éventuellement la remplacer.
C'est vrai, tout à fait.
Ça fait peur.
Une nouvelle qui fera plaisir à Christian. Catherine Deneuve, qui dispose des mensurations nécessaires, va tourner dans un film portugais, El Quinio, qui va retracer...
Non, c'est malin.
Non, et ce film retracera la vie de Montserrat Caballé, la célèbre...
Mais là, c'est pas du portugais, c'est l'espagnol. La
célèbre chanteuse d'opéra. Donc, ce film, donc El Quinio, devrait sortir en janvier 2015.
Tu le sais pas avec l'accent espagnol.
Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une fausse nouvelle. Hein. Il faudrait qu'elle prenne 40 kilos. Hein.
Christian, tu peux nous l'annoncer avec l'accent portugais que tu connais bien.
El Quinio.
Non, je l'aurais pas fait mieux que Patrick.
Ah ouais.
Il est très fort. Le 27 août prochain s'ouvre la 60e édition de la Mostra de Venise, l'un des trois plus importants festivals de cinéma au monde avec Cannes et Bourg-en-Bresse. Et si chez nous c'est l'affligeant tandem Krosigk-Besson qui faisait l'ouverture avec ce calamiteux François Latulippe, eh bien à Venise ils ont meilleur goût puisque c'est Woody Allen qui présentera Anything Else en avant-première mondiale, son prochain film. Et Woody sera même présent dans la Cité des Doges où un hommage sera également rendu à l'immense Catherine Hepburn, disparue dernièrement. Une vraie fausse nouvelle encore, Patrick ?
Non, une autre bonne nouvelle. Ce film sortira en mars 2004. Il aurait dû sortir en mars 2004, mais malheureusement le tournage n'aura pas lieu. Guillaume Depardieu avait été pressenti pour reprendre la vie de Richard Virenc. ce n'est plus possible.
Il a la bonne jambe, mais pas.
Ce n'est plus possible.
Sont longues vos 2 minutes. Hein.
Oui, oui.
Juste une petite précision par rapport à une nouvelle qu'on avait donnée la semaine dernière à propos du tournage d'Alexandre par Baz Luhrmann. Donc Nicole Kidman, dont on a parlé, joue bien le rôle de la mère d'Alexandre. Hein. Mais le tournage avait pour des raisons de géopolitique.
C'est par bien tes syllabes, de la mère d'Alexandre.
Oui, pardon, de la mère d'Alexandre.
C'était pas.
Donc le tournage qui avait qui aurait dû avoir lieu au Maroc, finalement, avait été délocalisé en Australie. Et puis, finalement, il aura bien lieu au Maroc, malgré les menaces terroristes qui pèsent sur la réalisation. Enfin, bon, voilà. Et puis, on parlait d'Alexandre. Ben, il y a un autre projet, Alexandre le Grand, par Oliver Stone. Alors, ça me semble un peu mieux que Baz Luhrmann, hein, mais par contre, les acteurs sont pas extraordinaires. Puisque là, on parlait de concurrence entre Nicole Kidman et Catherine Zeta-Jones. Et ben, visiblement, la mère d'Alexandre serait joué par Catherine Zeta-Jones. Donc bon, à suivre. C'est un peu dommage parce que Oliver Stone est quand même un meilleur réalisateur, mais il s'est moins bien entouré que l'autre.
Mais Jean-Philippe, ça fait quand même 4 fois que tu nous recases Catherine Zeta-Jones dans tes interventions.
Et Nicole Kidman aussi.
Ça part un petit peu amoureux. Bon allez, retour au thriller social pour Stephen Frears, c'est-à-dire ce qu'il réussit le mieux quand même, avec dans la distribution une surprenante, paraît-il, Audrey Tautou, et une intrigue dont le point de départ plaira votre boucher habituel, un clandestin employé d'un hôtel londonien qui découvre une nuit dans une chambre un cœur humain coincé dans les toilettes. Ça me paraît très alléchant, moi qui adore le mou.
Une autre sortie pour 2004, et je sais que c'est une actrice que tu aimes bien, Christian, Jeanne Balibar, qui a maintenant les mensurations nécessaires, va tourner dans un film de Mathieu Amalric, La vie de Maïté. Jeanne Balibar, donc. Voilà, petite dernière.
Et c'est quand les vacances pour toi? Ça va être encore ma...
J'en ai encore une. Alors là, c'est 3 réalisateurs que tu apprécies également, Christian, Éric Rohmer, Lucas Bellevaux et Luc Besson, pour une version X des Soudoués en vacances. Là, pour l'instant, on cherche de l'argent, mais on devrait trouver finalement.
Ah oui, ça, c'est sans
acteurs,
problème.
On a des idées, non? Louis de Funès?
Peut-être.
Oui. Non, il n'est pas libre, mais c'est Rocco Siffredi qui a pris son rôle. Voilà.
C'est une histoire d'un gars qui s'appelle Patrick. Et bon, Patrick, eh ben, il est jeune. Et puis quand on est jeune, c'est vrai que des fois, on a un petit peu des poussées d'hormones. Et là, le problème, c'est qu'il a trouvé personne. Eh bien, ça s'est terminé dans un champ de citrouilles. Ouais. Et dans ce champ de citrouilles, les policiers l'ont interpellé en train de copuler avec une citrouille. Alors, pour expliquer son geste, il a déclaré « Merde, il est déjà minuit ».
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée. Merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein. Sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y doit recevoir. À Paris, quand il fait gris, quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça. Et avec ça on devrait pas mettre de miroir. On devrait vivre dans les tiroirs. À Paris quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid, quand il fait moins froid, il fait froid. Il est déjà un peu moins laid. La veste survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les claques et le pantalon intégral, pas repassé, la vie de ma mère comme il est beau, c'était le cas, ouais, qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le cas, ouais, qui faisait crado.
C'est alors, sobre. J'ai pas pris dans mes valises les groupes mahorais, tant mieux pour vous peut-être.
Oui,
les Vikings, ça s'invente pas, hein, Latéral ou Baco.
Les Iguanes.
Pour rester dans l'ambiance cosmopop, hein, j'ai choisi un extrait de l'album de San Severino. Un album qui s'appelle Le Tango des gens, et ça me permettra, c'est la séance un petit peu nostalgique, de serrer très fort dans mes bras tous mes amis de là-bas, les Bressans, les Bergaliens, les Lorrains du bout du monde et tous mes amis d'ici. Et comme dit San Severino dans le titre que vous venez d'entendre, comme ses amis sont chers, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein.
On pourrait quand même profiter pour saluer les deux André qui nous ont écoutés le plus ces trois dernières années.
Il n'a pas été choisi par
participer à de nombreux concours.
C'est vrai.
Ce sont deux cyclistes émérites, surtout l'un. Alors que l'autre se contente de descendre l'école. Alors qu'il y en a un autre qui les monte.
C'est vrai.
Parce que j'ai compris, ils sont pas que l'école. Ils ont gagné 17 fois au moins en blind test.
Est-ce que je peux finir mon tour de table? Parce que tout à l'heure, je n'ai pas terminé.
Bien sûr, Michel.
J'ai prévu spécialement une petite phrase pour Frédéric. Hein.
Ah, ben c'est gentil, merci.
Frédéric, donc. Bonsoir, Frédéric. Hein. Donc,
Non, ça c'est expédié.
Non, j'ai pas fini.
Il bâcle.
Il préfère les concerts de Rock d'Annecy à ceux du Ninkasi. Il connaît par cœur les chansons de Mickey 3D au grand désespoir d'un soir de Christian.
Oh oui.
Ce soir, Titi fait son grand retour après quelques semaines de travail. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, Michel. Non, mais je crois qu'Annecy, on a la possibilité.
C'est un cauchemar.
De refaire l'équipe de France à mon image. Moi, je veux bien être titulaire avec Titi. Bon, ben voilà, c'est Frédéric. Hein.
Ah oui.
Bonsoir, les amis du Terminus des Prétentieux. Alors, grosse réputation sur Lyon de l'émission. C'est une émission exceptionnelle, hein, elle porte bien son nom, donc voilà, je viens témoigner un peu de ce que disent les Lyonnais de l'émission. En tout cas, je suis ravi de faire cette dernière, hein, paraît-il.
Oui, tu as bonne mine. En plus.
Avec vous, oui, merci, mais je me suis battu avec un poisson rouge, hein, puisque à l'œil gauche, j'ai un peu l'œil rouge.
J'ai perdu visiblement.
Oui, voilà, donc.
Un angiome.
Ouais, un angiome, tu crois? Tu es médecin?
Non, mais j'en ai sur le foie, moi, c'est pour ça que je repère d'accord, bien avec
ça,
l'œil.
Ça se voit moins.
C'est un peu plus grave.
C'est le rhume des foins du mois de juillet.
Tu as l'œil torve.
Ah, Yann Dorve, un grand nageur.
19h55 ou 15h55.
Mais c'est déjà l'heure de se séparer, Michel. Au revoir.
Bien, bonsoir.
Il est l'heure de retrouver les films du côté de Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Imbérieux. J'ai l'impression que ça va être très rapide.
Très, très rapide. Et Oyonnax, ça pue de la gueule ou quoi, là?
J'ai dit quoi? J'ai oublié?
Oui, non, c'est pas grave.
Ah, parce que
de toute façon, il n'y a rien à voir cette semaine, sauf peut-être à la petite semaine. Le film avec Gérard Lanvin, Clovis Cornillac et le troisième échappe, Jacques Gamblin, dont l'un sort de tôle, il retrouve ses potes qui vont le faire replonger. Non, mais il paraît que c'est un film assez
Saint-Carman.
Que je n'ai pas pu, un film de Saint-Carman, voilà, que je n'ai pas pu aller voir parce que je suis trop crevé après les étapes du Tour de France à la télé. Hein.
Bien sûr.
Voilà, bah pour Yonac, c'est fait. Mais oui, puisqu'on parle de Yonac, Michel, on va saluer quand même aussi des gens qui nous ont soutenus dans notre défense de la culture. Je voudrais parler notamment de la programmatrice du Centre culturel.
Qui nous ont écoutés, malheureusement.
Voilà, qui nous ont écoutés à quelques reprises et qui a démissionné. Et ça veut dire que nous n'aurons plus de place pour aller voir les spectacles l'année prochaine, puisqu'on va recadrer la programmation, vous avez annoncé l'année prochaine. Donc, Michel Leb, Serge Lama et peut-être les ballets de Sofia.
Ah, tu as donné la réponse au petit jeu de Thierry tout à l'heure.
C'est vrai.
Visiblement. Et peut-être aussi Maïté dans une masterclass de cuisine. Muriel, donc si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ouais. Surtout Didier.
Voilà, visiblement, elle n'aimait pas le rugby.
Non.
Eh oui. Hey, pas de chance.
Mais, allez, surtout Yonax. Hein, oui, si t'aimes pas le rugby, t'es mort.
T'es mort.
À Bourg-en-Bresse, Michel.
À Bourg-en-Bresse, on aime le football. Thierry, de Bourg-en-Bresse.
J'en fous, oui. Mais je sais pas, ils sont tous rayés. Sur ma...
Oui, c'est qu'on les aime pas, on les raye maintenant.
Ah, d'accord. Alors, à l'Eden, donc, Sinbad, la légende des sept mers.
Mm-hmm. Qui c'est qui a pas rayé ça?
Pareil.
Bon, non.
C'est le mystère de la chambre jaune, pareil et normal. J'ai vu, très bien. L'outre-mangeur.
Ah oui, avec Eric Cantona.
Si, mais on avait dit que c'était qui lui a pris la semaine dernière.
Ah bon.
Qui lui a pris 40 kilos pour le rôle. Hein. Il faut quand même une performance remarquable.
Johnny English a demi rayé. Donc on sent que
parce qu'il est sorti cette semaine.
On va aller le voir. Et les larmes du soleil vantées tout à l'heure par Jean-Philippe.
Et après, on remet en question toutes mes informations sur Catherine Deneuve, Jeanne Balibar. On voit que certains acteurs, grands acteurs comme Eric Cantona et Catherine Deneuve, peuvent prendre du poids pour tourner dans des films.
Oui, mais toi, tu n'as pas tourné.
J'ai perdu, moi.
Et c'est tout à ton honneur.
Et elle a baissé congé annuel. Ah bon.
Oui. C'est un très bon film.
Bah, Amber Heard, Michel, t'en as bien un petit pour la route. Ouais. Hein.
Johnny English.
Oui.
Et puis pour ceux qui aiment les enfants, enfin. Oui.
Oui, ça veut dire quoi, ça? Amis pédophiles, bonjour.
Ceux qui supportent les enfants,
le cinéma, les
entre 4 et 7 ans, Sinbad, la légende des mers.
Présent.
Bon, le problème, c'est que c'est Patrick Bruel qui fait une des deux voix. Une des voix du.
Oui, c'est Monica Bellucci.
Je les aime.
Mais enfin, bon. Voilà. Eh bien, il est 19h58. Deux ou trois petits albums ne feraient peut-être pas de mal.
Oui. Hein, des nouveautés, peut-être.
Peut-être.
Avant de se quitter, les concerts de la semaine, le samedi 4 octobre 2025, à tout bout de champ à Lyon, Auguste Wood et Alphonse Bisaillon. À l'espace des Batonnes à Dagneux, le festival Zac en scène avec Claude et Colt. À la Bibaude à Givry, en Saône-et-Loire, Gérard Morel et la guitare qui l'accompagne. Et à Over 18 Motors à Saint-Symphorien, dans le Rhône, Trigone Plus. Le dimanche 5 octobre 2025, au Bouiboui à Lyon, Camille Yénard. Et au Transborder de Villeurbanne, Scylla et Furax Barbarossa. Le lundi 6 octobre 2025, toujours au Bouiboui à Lyon, toujours Camille Yénard. Au château de Chazet, le festival Mort de Rire avec Selig. Le mardi 7 octobre 2025, au Transborder de Villeurbanne, Bob Villan et Gogol Bordello. Et au Brise-Glace à Annecy, Mathieu Bougertz. Le mercredi 8 octobre 2025, salle Édouard Herriot à Lyon, Guy Edré. Au Transborder de Villeurbanne, Kezia Jones. À la Bourse du Travail à Lyon, le Gang des Chieuses. Au Temps des Noyaux à Bourg-en-Bresse, Maxime Della Coletta. Et au Marché-Gare à Lyon, McCluskey et Kay Bondy. Et pour terminer le jeudi 9 octobre 2025, salle des Rancy à Lyon, le festival Jarring Effect avec Fred Nefché. À Valexpo à Oyonnax, Paul Mirabel. Et à tout bout de champ à Lyon, Yann Pontus et Yolande Bachung. Il va être l'heure de se quitter. La semaine prochaine, retrouvez la deuxième partie de la dernière émission d'Au Terminus des Prétentieux du vendredi. Nous étions le 25 juillet 2003. Patrick, Jean-Philippe, Thierry, Frédéric et Christian avaient tenu à saluer une dernière fois leur public. Il sera question de musique et de médias. Si vous êtes jeudi, retrouvez à 18h30 ou un peu avant la rediffusion de la 41e édition de Roman Gare. J'accueillais au téléphone l'auteur Anouk Schutterberg. Elle présentait son dernier roman en date, In Extremis, paru le 13 mars 2025 aux éditions Récamier. Sur ce, comme le dit si bien Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur les 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.